de 18-20. Un jour dans le monde.
L'heure de l'édito d'Anthony Bélanger. Bonsoir Anthony.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Vous vous êtes penché aujourd'hui sur l'avenir et l'utilité de l'Alliance Atlantique.
Et c'est la visite de Jim Mattis, vous savez, ministre de la Défense de Donald Trump à Bruxelles, qui m'a donné l'idée de tenter de résumer les enjeux militaires qui attendent les Européens dans les années à venir. À commencer donc par le vrai lien militaire qui les unit, ça s'appelle l'OTAN. C'est d'autant plus nécessaire que Jim Mattis vient en Europe avec une seule idée en tête, une idée très thatchérienne d'ailleurs, I want your money back, c'est-à-dire obtenir plus d'argent de ses 27 partenaires au sein de l'Alliance Atlantique. Et pour être juste, ce n'est pas la première fois que les Américains nous demandent de payer plus. George Bush et Barack Obama avaient à peu près exigé la même chose, à savoir que chacun des membres de l'OTAN atteigne au moins 2% de leur richesse en dépenses militaires. Ils l'avaient simplement exprimé en termes plus diplomatiques, moins trumpiens. La première question est donc, sommes-nous loin du compte? Et là, clairement, la réponse est oui, très loin même. Sur les 28 membres de l'OTAN, seuls 4, hormis les États-Unis, dépassent cet objectif, le Royaume-Uni, la Grèce, l'Estonie et la Pologne. La France, avec 1,8% de son PIB dédié à la défense, fait plutôt office de bon élève. Les autres membres de l'Alliance sont au mieux planqués à 1,5% ou au pire autour de 1%. L'Allemagne, qui est pourtant la première économie d'Europe, eh bien, se traîne à 1,2%.
Et c'est possible, Anthony, d'augmenter les dépenses militaires?
Alors oui et non. Pour un pays que, voilà, c'est toujours moi. Je ne change pas.
Alors, allez-y.
Bon. Pour un pays comme l'Allemagne, c'est clairement possible. D'ailleurs, Berlin s'y est engagé à l'horizon 2024, c'est-à-dire demain. Mais tant d'argent dans la défense allemande, eh bien, ça pose deux problèmes. D'une part, le budget militaire allemand dépasserait d'un coup et serait loin devant celui de la France ou de la Grande-Bretagne. Comme en plus l'Allemagne n'a pas d'armes nucléaires à entretenir, contrairement à Londres et Paris, l'armée allemande deviendrait vite extrêmement dominante. Et c'est une révolution copernicienne pour nous. Ça signifie en finir avec l'ordre hérité de la Seconde Guerre mondiale, qui visait à contenir les forces armées allemandes, mais c'est aussi une révolution pour les Allemands qui n'assument toujours pas de se remilitariser. Maintenant, il y a les pays qui ne peuvent pas ou difficilement dépenser plus. On pense immédiatement à l'Italie ou même à l'Espagne. Les deux pays se débattent avec une crise qui les a mis à plat. Est-ce bien le moment de leur demander d'acheter des chars, des F-16 et des missiles? Enfin, si les États-Unis n'ont jamais vraiment beaucoup insisté pour nous faire dépenser plus, c'est qu'au fond, ça les arrangeait. Ce sont eux qui ont le premier et le dernier mot au sein de l'OTAN, justement parce qu'ils assument l'essentiel des dépenses. Et sont-ils prêts à changer cela? Pas sûr.
D'où la dernière question, Anthony. À quoi bon dépenser plus, puisque Donald Trump dit lui-même que l'Alliance est obsolète?
Alors ça, c'est la question à 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars, ce serait le montant des dépenses militaires si tout le monde s'alignait sur les fameux 2%. Ce qui est surprenant avec l'OTAN, c'est combien ceux qui en sont membres adorent la critiquer, mais ne veulent surtout pas en sortir. Et pour une raison évidente. Dans l'OTAN, les 27 Européens qui ne s'entendent sur rien s'en remettent à un seul décideur, les États-Unis. Ça évite beaucoup de maux de tête, à commencer par exemple, quelle place donner à l'Allemagne, ou même quel ennemi. Imaginez les processus labyrinthiques de décision de l'Union européenne appliqué à une Europe de la défense sans les États-Unis. C'est encore trop tôt, beaucoup trop tôt. Et puis, évidemment, il y a la Russie. Entre 1989 et 2000, on a pu penser que la Russie pouvait être un voisin avec lequel discuter. On a même oublié sa susceptibilité lorsqu'on a allègrement poussé l'Alliance jusqu'à ses frontières. Le réveil a donc été particulièrement difficile. La guerre en Ukraine, l'annexion de la Crimée ont rappelé à la Pologne, aux Pays-Baltes et à tout l'ancien bloc soviétique les bonnes raisons qu'il y avait d'appartenir à l'OTAN. Et croyez-moi, ça justifiait à leurs yeux toutes les concessions, y compris bien sûr budgétaires.
Anthony Bélanger, merci.